des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Je suis heureux de retrouver le professeur Jean Bastier, qui est le président de la Société de Géographie, professeur émérite à la Sorbonne, et qui, dans le cadre de la Société de Géographie, va évoquer avec moi Alexandre de Humboldt, un autre grand géographe, né en 1769 et mort en 1859. Professeur Bastier, alors, ce Humboldt, je sais qu'il vous tient très à cœur. Oui, est-ce que je peux dire ça comme ça?
Absolument, absolument, parce que, bon, il s'appelait Alexandre von Humboldt, parce que son père était prussien. Bon. Mais sa mère était française.
D'origine huguenote, si j'ai bien compris.
Voilà, on va y revenir. Sa mère était française, tout ce qu'il y a de plus française. Et lui, Alexandre von Humboldt, on peut considérer qu'il était moitié prussien, moitié français, parce qu'il a vécu environ la moitié de sa vie en France, à Paris. Et il se préférait à Paris qu'à Berlin.
Il adorait Paris.
Il adorait Paris, il y est venu à maintes reprises. Il a été un des fondateurs de notre Société de Géographie en 1821.
Ah, c'est lui le fondateur
non,
de la Société?
Non, un des fondateurs.
Ah, c'est l'un des fondateurs,
ils
oui,
étaient 217 fondateurs.
Ah oui, d'accord.
Bon, la grosse majorité, c'était les savants qui avaient accompagné Bonaparte en Égypte.
Ah oui, vous savez, la grande expédition.
Voilà, la grande expédition d'Égypte sous le directoire. Hein. Bon,
qui a laissé
alors,
des traces
vous
savez, énormes.
Savants, il y a eu un film sur eux, d'ailleurs, à propos de l'un d'entre eux qui s'appelait le général Caffarelli, voyez,
ah,
qui
oui,
était
oui,
joué
oui.
par je ne sais plus quel acteur dont j'ai oublié le nom. Bon, et ces savants, Bonaparte les avait amenés avec lui parce que l'expédition d'Égypte avait un but militaire, évidemment, c'était de couper la route des Indes aux Anglais, qui étaient notre ennemi numéro un pendant dès le début de la Révolution et jusqu'à la fin de l'Empire. Bon, mais c'était pour leur couper la route, mais aussi avait un but scientifique. C'était de découvrir un nouveau pays, très différent évidemment de la France, hein, à l'époque surtout, un pays d'Orient,
un pays
très différent, très riche par son histoire, par ses vestiges, son architecture, tout cela.
Hein. À l'origine,
et alors,
à l'origine de l'humanité moderne,
absolument,
hein, faut
bien
le dire.
Aussi, enfin, il y a eu des civilisations avant celle d'Égypte, plus anciennes, enfin une des principales civilisation et des plus longues aussi. Il faut voir que la civilisation égyptienne a duré plus longtemps que la civilisation chrétienne à ce jour.
Ah oui, c'est...
Et oui,
on l'oublie, c'est vrai, on ne s'en rend pas compte.
Ça a été
oui.
plus long
oui,
que la
fait,
civilisation chrétienne depuis la naissance du Christ jusqu'à aujourd'hui.
Bon, d'ailleurs pour faire une digression, oui. professeur, dès que des gens contemporains vont aujourd'hui en Égypte, ils sont frappés par le côté imposant de cette civilisation, aujourd'hui encore, bien entendu. C'est très
alors, étonnant. Bonaparte, donc, avait aussi des intentions, pas seulement militaires, mais scientifiques. D'où il a amené avec lui une centaine de savants. Et comme la plupart ne montaient pas à cheval, ils montaient sur des ânes, les hommes de troupe les appelaient les ânes, par dérision. Vous voyez, ça, c'est pour la petite histoire.
Oui, tout à fait. Mais
alors, c'était
drôle.
Les plus grands savants
c'est
français
drôle.
De l'époque. Il y avait Monge, je ne sais plus qui, Laplace, tous ces gens-là. Bon, des gens de cette sorte, si ce n'était pas eux, enfin, c'était leurs équivalents, hein, qui sont allés en Égypte. Plus d'une centaine.
Et c'était considérable.
Donc, pour une fois, une expédition militaire qui avait aussi un aspect scientifique.
Oui,
c'est
ce qui n'existait pas jusque-là.
Et oui, ça aussi, c'était porté au crédit de Napoléon Ier.
C'est
enfin,
vrai.
Qui,
c'est
à
vrai.
L'époque, n'était que le général Bonaparte. Voyez-vous? Bon, alors, Alexandre von Humboldt a fait partie de ces 217. Il habitait Paris en 1821, il habitait Paris. Jusque-là, il avait vécu beaucoup plus longtemps en France qu'en Allemagne, en Prusse. Ah oui. Jusqu'en 1830.
Il a eu ce coup de foudre pour la
ah,
France,
oui,
pour
non,
Paris.
Mais, non, mais sa mère était française. Sa mère était française. Pourquoi sa mère était-elle française? Eh bien, parce que sa mère descendait d'une famille des Cévennes, des Huguenots des Cévennes.
Les enfin, fameux protestants.
Autant, au bas des Cévennes, au pied des Cévennes, dans la plaine du Gard, là, hein, non loin d'Uzès, sa mère...
Huguenots qui, d'ailleurs, ont fait la Prusse,
oui,
qui ont occupé Berlin, enfin...
Alexandre de Humboldt, pour nous, c'est une des rares conséquences heureuses de la révocation de l'édit de Nantes. S'il n'y avait pas eu la révocation de l'édit de Nantes, jamais les parents de Humboldt ne seraient allés habiter la Prusse, jamais Humboldt n'aurait été à moitié français, à moitié prussien.
Voilà, donc c'est
ça. Même les événements les plus fâcheux de l'histoire ont parfois des conséquences bénéfiques.
Bénéfiques.
Oui, celle-là, c'est une des rares conséquences bénéfiques.
Tout à fait.
Bon.
C'est vrai qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point la France a perdu en chassant tous ces protestants.
Évidemment.
En Amérique du Nord.
Sachez que vers 1790, le quart de la population de Berlin était française.
Ah oui, oui, ça c'est extraordinaire.
Et oui, le quart de la population de Berlin était française.
Le quart de la population française.
C'était des Français chassés de France par l'édit de Nantes.
Ah oui, tout à fait important.
Bon, alors sa mère et ses parents, elles, ont fait fortune en créant une manufacture de miroirs.
Oui,
de glace, de miroir.
Hein. D'où venait sa fortune importante.
Hein. Voilà.
Il
est né d'une famille qui avait acquis une très grande aisance. Et sa mère a épousé un général prussien, le comte de Humboldt, qui était chambellan du roi de Prusse, mais qui était un homme moderne, ouvert, et qui a voulu que ses fils, il en a eu trois, je crois, de cette française. Humboldt était celui du milieu, il avait un frère plus âgé, un frère plus jeune, a voulu qu'il reçoive la meilleure éducation.
Oui, ils étaient très tournés vers les Lumières.
Ah oui, absolument,
très inspirés par les Lumières.
Beaucoup plus que la plupart des gens qui étaient à Versailles, par exemple. Bon, vous voyez, ça a été un foyer intellectuel très important en Bruxelles parce que les gens de toute provenance se sont mélangés.
Ah, oui,
il y avait par exemple une minorité israélite très cultivée, avec des savants aussi. Et Humboldt est aussi le produit de l'influence de cette minorité d'intellectuels israélites dans la population berlinoise.
On oublie cela.
Et des Français réfugiés aussi, dont il a eu des précepteurs de toute espèce.
Déjà, le rôle des Israélites
modernité, à Berlin. Et le roi de Prusse ne les a pas chassés. Il n'a pas fait comme Hitler. Vous connaissez.
Bon, c'est intéressant, ça.
Berlin a été un foyer intellectuel que l'on ignore bien souvent. Évidemment, il n'avait pas l'importance de celle de Paris, peut-être, Paris. Mais enfin, Berlin était un foyer intellectuel non négligeable.
Oui, tout à fait.
Et c'est dans cette atmosphère que Humboldt a fait ses études. Avec un père qui était un homme ouvert, cultivé, une mère qui était d'origine française. Voyez. Et alors, à sa adolescence, sa mère est morte assez jeune, il a reçu très important de sa mère.
Sans lequel il n'aurait pas fait probablement toutes ses expéditions.
Donc, ayant cette fortune, il a pu pratiquement vivre toute sa vie sans avoir besoin de gagner de l'argent.
Ah oui, donc il avait liberté
absolue.
Entière.
Et il a pu voyager, faire des recherches, publier des livres à son compte, sans doute, au départ, au moins.
Quelles sont ses grandes découvertes?
Alors, ses grandes découvertes, sa grande importance, c'est sa découverte de l'Amérique.
C'est l'Amérique du Sud.
Amérique du Sud et du Nord,
un peu,
avec le Mexique,
Ah oui, d'accord.
Amérique latine.
Donc l'Amérique latine.
Latine, Cuba, Mexique, tout ça.
Donc un spécialiste de l'Amérique latine.
Alors, par exemple, tout jeune, il était à Paris le jour de la fête de la Fédération. La fête de la Fédération l'a marqué. Voyez-vous. Il a vécu une partie de la Révolution française à Paris, et non pas en Allemagne.
Donc il a un parcours intéressant.
Il parlait le français aussi bien que l'allemand, il écrivait en français aussi bien qu'en allemand, il était binational.
Pour revenir à l'Amérique latine, quelle a été son action sur l'Amérique
latine? Alors, il a effectué un très grand voyage en Amérique latine, qui a duré 5 ans.
Ah oui, 5 ans.
Oui, quelques jours.
C'est considérable, ça.
J'ai calculé 5 ans et 15 jours, du 16 juillet 1799, là c'est le jour de son abordage au Venezuela, dont il était parti au moins 2 mois avant, donc du mois de mai 1999, au mois d'août 1804.
Ah oui, donc 5 ans.
5 ans, et un peu plus.
Et vous le dites vous-même dans un de vos textes, il fut véritablement le créateur de la géographie moderne, basée sur la soif de savoir et une curiosité insatiable fondée sur l'observation directe et attentive, sur la précision, comme avec l'utilisation des statistiques, ce qui est nouveau, ça.
Ah oui, aussi. Avec son ouvrage, que j'ai apporté d'ailleurs, 700
pages. Oui, qui s'appelle comment ?
700 pages. Non, cet ouvrage, en réalité, c'est la thèse faite sur lui par un de mes amis décédés, qui était mon collègue à Nanterre, le professeur Charles Minguet.
Oui, veuillez grand donner le titre de la thèse.
Grand,
oui,
Alexandre de Humboldt.
Ah bon, d'accord.
Histoire et géographie de l'Amérique espagnole, 1799-1804.
Chez quel éditeur, ça?
Alors, c'est chez Maspero.
Ah, très bien.
Charles Minguet.
Oui, Charles Minguet, une œuvre.
Oui, qui était professeur de civilisation latino-américaine à Nanterre en 68. Je l'ai bien connu, Charles Minguet, et c'est l'exemplaire de sa thèse qu'il m'avait offert à l'époque, car nous étions collègues et amis.
Oui, donc bon, voilà, travail, une somme.
C'est la thèse de 800 pages de Charles Minguet, dont je voudrais rappeler le nom. Il est décédé déjà il y a un certain temps.
Comme dirait l'abbé Bremond, c'est un cuirassé. Voilà. Ce livre.
Il a fait une thèse remarquable sur... Alors, il y a eu bien d'autres publications sur Humboldt, évidemment.
Et puis alors,
c'est la base de tout travaux, parce qu'il y a des références, une bibliographie considérable, etc.
Oui, donc ça, c'est très
alors,
important.
Alors, en gros, pour résumer, les Européens connaissaient peu l'Amérique latine, évidemment. Peu d'Européens y allaient. Évidemment, à part que quelques Portugais au Brésil et des Espagnols, bon, mais le reste de l'Europe connaissait très peu l'Amérique latine. Bon, et d'autre part, à l'époque, certes, l'imprimerie existait déjà, mais enfin, il y avait peu de livres, évidemment.
C'est certain.
Et alors, c'est à travers les récits de Humboldt, qui ont fini par être traduits dans les différentes langues européennes et principalement en français et en allemand, évidemment, avant de d'être traduit dans les autres langues, évidemment, c'est à travers les récits de Humboldt que, pour la première fois, les Européens un peu cultivés ont fait connaissance avec l'Amérique.
Ah oui, donc c'est vraiment
l'Amérique latine.
Donc le rôle de Humboldt est une modernité incroyable.
Voilà. Oui. Vous comprenez ?
Oui, tout à fait.
Avant lui, vous le savez, un peu après Christophe Colomb, il y avait eu Amerigo Vespucci,
oui.
le Florentin, qui était un homme très cultivé, contrairement à ce qu'on fait, on le veut le faire passer pour un marchand. En réalité, c'était un homme très cultivé. On a fêté en Italie, il n'y a pas longtemps, on a commémoré un anniversaire de Amerigo Vespucci, et j'ai vu aussi bien à Florence qu'à Rome les expositions qui ont été organisées à l'occasion de cet anniversaire qui a été une sorte de fête nationale de toute l'Italie.
Ah oui,
ça a eu un retentissement dans toute l'Italie. Et là, j'ai découvert que Amiro Vespucci n'était pas le marchand que l'on disait, mais que c'était un savant et que lui aussi avait ramené des récits de son voyage qui avaient commencé à faire connaître l'Amérique hispanique aux Européens. Mais pas autant que Humboldt.
Et vous racontez...
Parce que Humboldt a publié beaucoup plus, un peu plus tard. Il y avait davantage de gens capables de lire et de s'instruire en 1810, mettons, qu'en 1500 et quelques.
Puis alors, vous racontez dans un texte, cher professeur Bastier, dans un texte sur Alexandre Humboldt, La France, Paris et la Société de Géographie, vous écrivez ce qui suit, qui est tout à fait passionnant. Je livre à vos réflexions un fait que m'a appris récemment l'ambassadeur du Panama en France, Aristide Royot. Humboldt n'est pas passé au Panama, on parle du pays Panama, mais il s'est fait communiquer les mesures sur la région, distance, altitude et pente faites par les explorateurs et ingénieurs. Il examina les différentes hypothèses, c'est toujours vous qui parlez, et détermina un trajet pour le canal. Il y crut dans le canal de Panama, près d'un siècle avant sa réalisation. Il se trompa de peu, par exemple sur l'altitude de quelques mètres à peine. Un auteur l'appelle même le père spirituel du canal. C'est en effet le trajet préconisé par Humboldt qui fut adopté par de Lesseps. Permettez-moi de rappeler que tous deux furent présidents de notre société de géographie.
Oui,
voilà ce que vous écriviez peu de temps, de façon passionnante, sur ce fameux canal de Panama.
Le canal de Panama a été, en quelque sorte, préconçu par Humboldt.
C'est
une des choses qu'il a faites.
C'est quelque chose.
Il a été aussi, pendant quelque temps, l'homme le plus haut du monde. Parce que dans son périple latino-américain, il a fait l'ascension du Chimborazo.
Chimborazo, qui est un sommet très élevé.
Au sud. 5 000
quelques mètres,
oui, 5 000 ou près de 6 000 mètres au sud de la Colombie, presque à la limite de la Colombie et de l'Équateur, de l'État de l'Équateur.
Oui,
il est passé par là. Il n'est pas allé tout à fait jusqu'au sommet.
non ?
Mais presque, presque. Edith,
oui, à l'époque, il avait
un équipement. Il n'était pas équipé, hein, oui. Il avait des chaussures ordinaires, incroyable, des vêtements ordinaires, incroyable, etc. Et il n'y avait pas d'équipement pour faire la haute montagne.
Mais véritable explorateur.
Bon, bon. Alors, il a fait ça avec son compagnon qui s'appelait Bonplan, sur lequel je vais revenir un instant tout à l'heure, si vous le permettez. Et il est monté à plus de près de 6000 mètres, hein. Et personne n'était monté aussi haut, même. Je ne sais même pas si à l'époque on avait déjà fait l'ascension du Mont Blanc, qui, je vous le rappelle, n'a que 4800 et quelques mètres. Donc il a été l'homme le plus haut du monde, sauf ceux qui étaient peut-être montés en ballon. Mais même en ballon, on suppose que aussi bien Montgolfier, qui n'est pas monté très haut, que un autre, je, sais plus, je crois que c'était Gay-Lussac. Ou
ah oui, c'était
plus.
Montgolfier.
Montgolfier,
oui,
et puis, ne sont pas allés en ballon aussi haut que l'étalé Humboldt, avec Bonpland, en gravissant, ou presque, le Chimborazo.
Oui, donc un homme,
ah oui, oui.
Un homme quand même
d'exception. Il a navigué sur les différents fleuves de l'Amérique latine, du sud, du nord de l'Amérique du Sud, hein, Venezuela, Colombie, l'Orénoque, tout ça, il a navigué sur l'Orénoque. Il a découvert le Casiquiar, vous savez, ce fameux fleuve qui n'a ni source ni confluent, puisqu'il relie deux fleuves. Le Rio Negro, affluent de l'Amazone, et un affluent de l'Orénoque.
Très peu connu.
On peut passer de l'un à l'autre, donc c'est un bras de fleuve, si je puis dire, qui n'a ni source ni embouchure.
Hein. Il est un petit peu le cavalier de la salle, d'une certaine façon, de la Méditerranée.
Alors, il a navigué partout, dans tout là. Il est monté au sommet des montagnes. Il a étudié également la société, l'esclavage. Il nous a amené des tas de statistiques.
La faune,
évidemment. L'herbier, le fameux herbier tenu par son compagnon Bonplan. Vous savez que l'herbier, qui est remarquable, qui comprend des centaines de feuilles, est ici au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Lorsque nous avons fait une exposition il y a quelques années à la Maison d'Amérique latine, nos collègues du muséum ont bien voulu nous porter des feuilles de l'herbier. Ils nous les ont prêtées. Elles sont remarquables comme état de conservation. Ils ont ramené des milliers de feuilles d'un herbier qu'ils avaient constitué avec les plantes qu'ils découvraient.
6 000 échantillons, voilà, dites-vous quelque part.
6 000 échantillons.
Je vous ai lu, professeur.
Oui, 6 000 feuilles. Ouais. Bon, c'est remarquable.
6 000 échantillons de plantes.
Cet herbier est unique au monde ce qui concerne
c'est sensationnel. Le
début du 19e siècle. Et où la fin du 18e et le début du 19e, unique au monde. Il est à Paris, grâce à leur bon plan.
Et vous écrivez même, j'ai vu et tenu dans mes mains quelques-unes des feuilles de cet herbier admirablement conservées.
Ah oui, oui. Et qui sont à Paris, au muséum.
Et c'est en français, on peut ajouter, qu'Humboldt publia la monumentale relation de son voyage en 30 volumes in quarto.
Absolument.
C'est quand même
alors,
extraordinaire.
C'est ça qui a fait connaître l'Amérique latine, aussi bien du point de vue physique que du point de vue humain ou économique, aux Européens.
Donc c'est Humboldt.
C'est Humboldt, et Bonpland. Mais enfin, c'est Humboldt qui a écrit l'ouvrage. En français, il a été traduit en allemand ou en anglais, et en anglais après.
Ah oui.
Après, il a été d'abord publié en français.
En français. Donc,
Parce que ma théorie est la suivante. Humboldt, dont je crois l'avoir démontré, était au moins à 50% français.
Oui, ça, je crois.
Bon, Bonpland, qui était originaire de La Rochelle, était à 100% français. Bon, dont l'expédition Humboldt-Bonpland est à 75% française.
Voilà.
Et seulement à 25% prussienne.
Voilà.
Voilà mon raisonnement.
Je crois que votre raisonnement. Les travaux ont été publiés en français.
Et l'herbier est à Paris.
On ne peut que s'en réjouir. Donc, ce passage, vous rappeliez ça au début de l'émission, par les Cévennes, la Prusse, Berlin et le retour
et
sur
tout
Paris.
Et tout ça grâce à l'édit de Nantes, à la révocation de l'édit de Nantes.
Si on ose dire.
Mais toutes les choses, même les pires, ont toujours des effets bénéfiques. On ne sait jamais.
En conclusion, qu'est-ce qui vous plaît chez l'être humain Humboldt ? Est-ce qu'il y a quelque chose...
Mais c'est sa soif de savoir. Et puis, vous savez qu'à la fin de sa vie, il a écrit... Alors là, cet ouvrage qu'il a écrit à sa fin de sa vie, je crois qu'il a commencé à l'écrire en allemand. Il a été traduit après en français, c'est le Cosmos. Il a écrit un ouvrage sur l'univers.
Sur l'univers.
Tout l'univers. Compris le système solaire, que tout ce qu'on pouvait savoir à l'époque sur l'univers dans son entier.
C'est une somme.
Parce que, alors, à propos évidemment de la Terre, il n'y a que la Terre qui concerne la géographie. Tout ce qui est hors de la Terre, c'est plus de la géographie, c'est de l'astronomie. Vous voyez ? Bon, eh bien, sur les reliefs, les climats, la végétation, tout cela, il a eu des vues synthétiques remarquables pour l'époque.
J'ai comme l'impression, cher professeur Bastier, j'ai l'impression que vous avez une admiration sans borne pour Humboldt et que... Est-ce que vous sentez un peu le disciple de
Humboldt? Ah non, je n'oserais pas. Non, d'abord, il avait fait au départ des études scientifiques. Il était passé par une école réputée, une école des mines prussiennes, qui était, je crois, Freiberg.
Il était très compétent
en géologie, aussi en géologie, botanique. Il parlait plusieurs langues, il écrivait plusieurs langues, aussi bien
un
le
véritable
français,
savant.
Que l'allemand, que l'espagnol, etc. Non, personne ne peut se comparer à Humboldt.
Rappelez-nous, il faisait partie de l'expédition d'Égypte
Non, il n'avait pas fait. En 1848, à l'époque, nous avons une présidence tournante qui tournait tous les ans. Il a été le seul étranger président de la Société de géographie de Paris en 1848, 47-48. Pendant un an, il fait partie de nos présidents.
Et vous aviez tout à fait raison, et ça sera un peu le mot de la fin, vous aviez tout à fait raison de rappeler l'importance de l'expédition d'Égypte où des tas de physiciens, des chimistes ont participé, comme Laplace, Monge, Fourier, Gay-Lussac, Arago, Berthollet, ce qui étaient des naturalistes pour ces derniers, Cuvier, Lamarck, Jussieu, des égyptologues, Champollion, des écrivains,
aussi.
Chateaubriand, d'anciens membres de l'expédition d'Égypte comme Edme, Charles Jomard, longtemps l'un des
piliers... Là vous énumérez les fondateurs. Parmi tous ces fondateurs, un grand nombre ont fait l'expédition, mais pas tous.
Pas tous.
Là, il y a des anciens, mais il n'y a pas que des anciens parmi les fondateurs. Sur 217, mettons, il y en avait une centaine, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié qui avaient fait l'expédition d'Égypte.
Donc,
les autres n'avaient pas fait. Par exemple, Humboldt n'avait pas fait l'expédition d'Égypte. Il y avait un Danois, Conrad Maltebrun, qui ne l'avait pas fait. Un Russe qui n'avait pas fait l'expédition d'Égypte. Nos fondateurs appartenaient à beaucoup de nationalités.
Cher Président...
C'est la raison pour laquelle notre société ne s'appelle pas Société Géographie de France ou de Paris.
Mais Société de Géographie.
Tout court, parce qu'au départ, elle voulait être internationale.
Universelle
et internationale. National.
Cher professeur Bastier, merci infiniment pour cette nouvelle démonstration magnifique de l'exploration en français qui est là, dans le cas d'Alexandre Humboldt, vous l'avez dit tout à l'heure, à 75% français, ce qui n'est pas rien. Et rappelons ce personnage inouï de Humboldt, âgé quand même, qui est mort à 90 ans, né en 1769, mort en 1859, une vie magnifique dévouée à la cause des sciences, des arts. Je vous remercie infiniment.
Mais il a pu faire ça parce que sa mère lui avait laissé un gros héritage.
Voilà.
Et qu'il a sacrifié sa vie à la science, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu de descendance. Parce qu'il a voué toute sa vie à la science.
Et il a évidemment, et à l'époque ça ne devait pas exister, mais il a évité de jouer à la bourse, évidemment.
Ah oui, mais il n'avait pas besoin.
Merci infiniment. À bientôt pour une autre émission, cher Jean Bastier.